Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tawana Self Drive est une agence créée par Julie et Vincent, ici au Botswana. Après avoir parcouru eux-mêmes une partie de l'Afrique avec un véhicule 4x4 aménagé, ce qu'on appelle ici le Self Drive, ils ont quitté leur vie parisienne pour créer une petite agence dans la ville frontière de Kazané. Ici, nous sommes tout près de la rivière Chobé, avec en face la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie. Rencontre avec ces expatriés en soif d'aventure. Vincent, où sommes-nous ?
Nous sommes dans un restaurant au bord de la rivière qui s'appelle le Old House. Et voilà, qui est très proche de la rivière, et on voit souvent des hippopotames, des éléphants qui longent la rivière. Donc on est au bord de la Chobé River, qui est la rivière qui se jette dans le Zambèze et voilà, qui longe. C'est une grosse rivière qui longe Kassané au Botswana.
C'est vrai qu'on est dans un point un peu particulier. On a la frontière, on a l'autre côté de la rivière, la Namibie. Là, on est sur le côté botswanais, t'as pas loin le Zimbabwe et la Zambie qui est aussi juste à côté. Donc c'est vraiment un lieu assez particulier où tu récupères vite plein de tampons sur ton passeport. Donc le concept de l'émission Regarde ailleurs, c'est de donner la parole aux gens que je rencontre sur mon itinéraire. Et là, avec moi, deux expatriés qui ont fait le choix de venir s'installer ici à Kazan. Donc je ne connais pas encore, mais l'idée c'est de tout savoir. Et on va peut-être commencer par le parcours. Quel est le chemin qui vous a amené jusqu'ici au Botswana? Comment est-ce qu'on se retrouve à quitter la France et à s'installer ici?
Alors effectivement, on a quitté la France, on a même quitté la région parisienne, enfin Paris, puisqu'on habitait à Paris, donc c'est une grosse différence par rapport à cette ville-là et à ce lieu Kassané, qui est une toute petite ville. Et on voyageait énormément en Afrique australe, en Afrique de l'Est, on a eu le virus du voyage en Afrique, et on s'est dit un jour, on a voyagé pendant 10 ans comme ça, on aimait prendre une voiture et se balader dans les pays à la rencontre des gens et des animaux. Et voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, pourquoi pas tenter de s'installer là où on aime. Et on a décidé de se lancer, on a monté une entreprise et on est parti comme ça. Voilà.
Excellent. Donc à la base, vous êtes des voyageurs, quoi, des voyageurs parisiens, passionnés par l'Afrique, avec cette envie de tourner une page, en tout cas écrire un nouveau chapitre dans vos vies.
Et c'est exactement ça, oui, ça s'est fait comme ça. Ça a été compliqué, ça a été long. Le chemin a été assez rempli d'embûches. Mais voilà, c'est le principe, on l'a fait. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on vit à Kassané.
Ok, chemin rempli d'embûches, on va en parler de ces embûches. Mais je vais revenir d'abord sur l'itinéraire et le parcours de voyageurs. Donc vous parliez d'Afrique. Donc vous, c'est plutôt l'Afrique, pas l'Asie, pas l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui a fait que la première fois, vous quittiez la France pour aller en Afrique?
On remonte en 2006, je pense. Ça doit être dans les 2006. Ouais. On a tout simplement fait un voyage de vacances. Hein. C'était nos vacances, nos congés. On est parti visiter l'Afrique. Et l'Afrique du Sud, on a commencé par l'Afrique du Sud. Et c'est quelque chose qui nous a plu, qui nous a beaucoup plu. On s'est dit, on veut continuer à découvrir des chemins encore plus sauvages. Et ça nous a mené à plein d'autres destinations, comme l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda. On a même visité la République démocratique du Congo. Et on a fait le Botswana, le Zimbabwe, tout ça, toutes ces régions-là de l'Afrique australe. Et ce qui nous a donné envie ce virus ne nous a plus lâché.
Et donc là, c'était à chaque fois en mode vacances. Donc vous rentriez dans vos vies parisiennes en attendant de reprendre un avion pour continuer l'exploration de l'Afrique.
Oui, tout à fait. Alors on n'a pas fait que des vacances, en fait. On a aussi fait des voyages solidaires. On est aussi parti aider des ONG dans certaines régions de l'Afrique, notamment au Zimbabwe et aussi un petit peu à l'ouest, au Bénin. Et voilà, ça c'était pour plus découvrir encore mieux les gens et l'envers du décor au niveau de la faune sauvage, comment était gérée la faune sauvage. Et donc on a fait les deux, on a fait la partie vacances et aussi la partie congé solidaire.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont dans cette quête de sens, donner du sens à sa vie, donner du sens à son voyage, à ses vacances, pour sortir un petit peu de l'itinéraire classique et touristique. Comment est-ce qu'on en vient à travailler ou aller voir le travail des ONG? Quelle était la démarche? Comment est-ce que vous y êtes pris pour redécouvrir les différents projets? Et comment est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que c'est possible ça de faire? Enfin, comment vous avez fait ça?
On s'est posé la question aussi. Au tout début, on voulait quelque chose qui ait un peu plus de sens. Et donc on a décidé, enfin on a commencé à rechercher un petit peu comment on pouvait aller vers ce genre de démarche. Et on est tout simplement tombé sur une association qui est basée en France, à Paris, et qui propose des congés solidaires sur de courtes périodes, donc ce qui permet aux gens qui ont 2 semaines, 3 semaines de congés de partir justement aider des ONG qui en ont besoin, et sans avoir besoin de partir pendant des mois pour les aider. Donc c'est vraiment des congés assez courts. Et cette association, c'est Planète Urgence, peut-être que vous la connaissez. Ça nous a plu, le principe nous a plu, et on a recommencé, on est parti 3 fois avec eux.
Donc ça, c'est vraiment sur la base du volontariat, ou du bénévolat plutôt. C'est du bénévolat, donc vous prenez en charge vos billets d'avion, vous regardez quels sont les différents projets, les différentes missions proposées, puis on met en phase en fait un projet et une compétence qu'on peut plus ou moins apporter.
C'est exactement ça, il y a plusieurs types de compétences. Il y a des compétences techniques, ou des compétences organisationnelles. Donc on parle sur un projet bien défini, on postule pour un poste, en fait on donne une sorte de CV, même si c'est relativement, ils sont relativement ouverts, et c'est assez facile d'accompagner certaines associations. Après il y a des associations qui demandent des profils très particuliers, très techniques, des métiers bien précis. Voilà, nous on a décidé de partir dans le cadre d'organisation de protection de l'environnement, donc voilà, qui sont plutôt ouvertes à tout le monde, et c'était assez facile de postuler pour ce genre de métier. Oui.
Alors c'est Julie qui va nous parler d'une des missions que vous avez fait via Planète Urgence en tant que bénévole. Donc quelle a été une des missions choisie, et raconte-nous un petit peu le pays et comment ça s'est passé cette mission sur 2 ou 3 semaines.
La première mission qu'on a fait, c'était au Zimbabwe. Donc nous, depuis quand même très longtemps, on a envie de protéger l'environnement, on a envie de s'impliquer dans un monde meilleur, etc. Et on a aussi beaucoup d'amour pour les animaux de notre planète. Et donc on voulait participer à une mission de protection d'une espèce en voie de disparition. Et on avait choisi Zimbabwe parce qu'il proposait une mission sur les rhinocéros noirs du Wangé. Donc il y a un parc national qui longe le Botswana, enfin qui n'est pas très loin d'ici. Et donc oui, tout simplement, c'est du suivi écologique dans un parc national. Donc comme disait Vincent, on voit tout l'envers du décor de la gestion des espèces à l'intérieur d'un parc national. Et nous, notre apport dans tout ça, c'est d'être là, de donner quand même un support financier à ce projet, mais aussi de donner une motivation au projet. Parce que les gens qui s'occupent de compter, par exemple, les rhinocéros dans un parc, etc., bon, ils font des transects, ce qu'on appelle les transects, des comptages, en fait, sur plusieurs jours. Et c'est assez routinier, en réalité. Et d'avoir du sang neuf, ces volontaires qui viennent et qui sont toujours heureux d'aider avec toute leur volonté, eh bien, ça motive le projet. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils font appel à des volontaires étrangers, parce que Zimbabwe-France, c'est quand même c'est un projet qui est anglophone, hein, mais c'est aussi pour cette raison. Et puis du coup on passe 15 jours avec des gens qui nous parlent de leur passion, de ce qu'ils ont envie de comment ils voient l'avenir par rapport à ces animaux. Parfois c'est dur, parfois c'est plus gai, ça dépend. Mais c'est extrêmement enrichissant. C'est une mission humaine et écologique en même temps. Voilà. C'est vraiment le partage de plein de choses.
Mais je trouve ça absolument génial. Donc en allant sur le site de Planète Urgence, on peut voir ces différents projets et donc faire ce que vous avez fait, choisir de partir en vacances pour faire du bénévolat et être vraiment impliqué sur un projet, une action locale.
Oui, c'est exactement ça. Tout le monde peut y aller, tout le monde peut participer. C'est sur la base du volontariat. Ça coûte un petit peu d'argent pour ceux qui partent, mais il faut bien comprendre que cet argent, il sert aux ONG locales et à faire tourner l'association, bien sûr.
Donc des voyages comme ça, via Planète Urgence, il y en a eu combien avant de faire le choix de sauter le grand pas ?
On a fait 3. On a été 2 fois au Zimbabwe, donc la première fois pour la protection des rhinocéros, la seconde fois pour la protection des léopards, et on a fait une mission au Bénin, qui était un suivi écologique global sur le parc de la Pandjari, qui a été tristement mis en lumière récemment. Mais qui est vraiment un parc fabuleux, il faut que les touristes continuent quand même à aller visiter ce parc, c'est important. Voilà. Et c'est donc c'est 3 missions différentes avec un encadrement différent et qui des partenaires différents. Donc voilà. Donc c'est vraiment très très enrichissant et ça donne envie encore plus de faire des choses à titre personnel sur comment améliorer notre vie pour qu'il n'y ait pas d'impact sur ces animaux, etc. C'est voilà. Ça motive encore plus, je pense. C'est concret, en fait.
Ouais. En tout cas, voyager de cette manière, c'est semer des graines dans quelque part dans son esprit. Et donc, petit à petit, est venue cette envie de changement, donc de changer de vie. C'est peut-être ça que je vais m'intéresser maintenant. Donc, comment est-ce qu'on fait le grand pas ? Comment est-ce qu'on mûrit un projet de vie qui est celui de tout quitter pour reconstruire, rebâtir autre chose ailleurs ?
C'est effectivement, comme le disait Julie, on a fait 2 projets au Zimbabwe. Donc ça nous a permis de pas mal discuter avec les gens sur place, de savoir comment ça se passait, comment on pouvait lancer les projets dans un autre pays. Donc ça a été assez intéressant. Et après, la démarche a été toute simple. On a évidemment cherché où s'installer le mieux, parce qu'on avait des envies, mais ça suffit pas. Il y a parfois des choses qui ne peuvent pas se faire. En particulier, bon, on parle du Zimbabwe. On avait très très envie de s'installer au Zimbabwe. C'était un pays pour lequel on a eu un coup de cœur. Malheureusement, c'est pas possible pour des raisons politiques, des raisons économiques. C'est très compliqué. Non pas. C'est un pays totalement sécure, totalement ouvert. C'est très très sympa. Mais par contre, il y a des problèmes économiques et politico-économiques qui font que c'est très très compliqué de se lancer dans une entreprise, et très risqué, oui. Donc voilà, donc on a choisi, on a essayé de trouver le meilleur endroit pour s'installer, qui nous permettrait de développer quelque chose, et on a choisi le Botswana pour des raisons à la fois économiques, à la fois politiques, puisque le Botswana, c'est un pays relativement riche, c'est un pays qui est stable politiquement, c'est une vraie démocratie, et c'est un pays où on pensait qu'il était assez simple de s'installer, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. C'est pour ça que je parlais d'embûches tout à l'heure. Ça a été semé d'embûches, mais voilà, on a fini par réussir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant de revenir sur cette histoire de Botswana, je reviens sur le Zimbabwe. Donc on a rencontré quelqu'un, je ne connais pas du tout l'histoire de ce pays, mais donc un expatrié aussi qui vit ici, qui était au Zimbabwe, qui est né au Zimbabwe, mais il expliquait qu'il était fermier là-bas. Et à une époque, tous les fermiers blancs ont été sommés de quitter le pays.
L'ancien président du Zimbabwe s'appelle Robert Mugabe, c'était un dictateur qui est arrivé au pouvoir. Il n'a pas été dictateur tout de suite, mais il est arrivé au pouvoir après l'indépendance du pays, dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Au début, il a fait preuve d'ouverture d'esprit. Il voulait la réconciliation entre la population locale, blanche et noire. Il était assez ouvert économiquement. Et puis, il a voulu s'accrocher au pouvoir, tout simplement. Et il s'est radicalisé. Il a mis en place une réforme agraire qui visait à rendre les terres aux populations noires du Zimbabwe, parce que ces terres étaient exploitées exclusivement quasiment par les blancs, qui avaient la connaissance de comment cultiver ces fameuses terres. Et puis, du jour au lendemain, il a décidé que ces terres devaient revenir à la population noire qui avait été spoliée. Et du coup, il a effectivement mis à la porte tous les blancs, entre guillemets, tous les blancs fermiers du pays. En faisant ça, malheureusement, le fait de redonner les terres à la population locale, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il a viré toutes les compétences du pays, en réalité. Et donc, il a plongé le pays dans un marasme économique duquel ils ne reviennent pas, puisqu'ils sont toujours dedans. Parce que ces populations locales n'ont jamais étudié comment cultiver ces terres, n'ont jamais eu l'expérience, etc., pour le faire. Et donc le Zimbabwe est passé d'un statut de grenier à grains de l'Afrique, c'est un pays extrêmement riche, qui fonctionnait très bien, à un pays comme on le connaît aujourd'hui, où il n'y a plus rien économiquement, un pays qui a subi une inflation du tonnerre, une population qui est étranglée par toutes les décisions qui peuvent être prises depuis maintenant 15 ans, 20 ans, par rapport à l'économie, et qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est en plus visée par des sanctions internationales. Donc c'est un pays qui se renferme encore de plus en plus sur lui-même, alors que c'est un pays vraiment fabuleux, avec des gens qui ont une éducation exceptionnelle. Il y a d'excellents médecins, il y a d'excellents professeurs au Zimbabwe, il y a d'excellents... Et puis un pays qui aime la paix, en plus, qui n'a pas du tout envie de partir en guerre... ces fameuses guerres qu'on pourrait imaginer entre blancs et noirs, au Zimbabwe, ça n'existe pas. C'est pas ce que la population veut. Mais voilà, ce président, il a ruiné ce pays. Aujourd'hui, on a un nouveau président, mais les choses ne progressent pas comme la population le souhaiterait. Et ça plonge encore un peu, encore plus. Voilà. Mais c'est ce qui s'est effectivement produit. Et ces fermiers blancs, malheureusement pour eux, ils sont traités maintenant, parfois ils n'ont même pas de passeport zimbabwéen, ils sont traités comme des étrangers, alors qu'ils sont zimbabwéens, fondamentalement zimbabwéens, et qu'ils n'ont pas du tout envie de quitter leur pays. Donc parfois ils le font parce que économiquement ils ne peuvent plus survivre. Mais si vous parlez avec des zimbabwéens qui vivent ici, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer au pays. Voilà, c'est. Mais la situation économique pour eux est compliquée, et politique aussi, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vincent, Julie, on est là aujourd'hui parce qu'on a trouvé votre contact sur Internet. On est venu ici au Botswana en voulant louer une voiture, louer un pick-up, hein, je crois que ça se fait beaucoup ici pour pouvoir faire un self-drive, donc se balader avec la tente sur le toit et aller à l'exploration, à la découverte du pays. Donc si j'ai bien compris, vous êtes loueur de voiture, c'est ça? Donc comment est-ce qu'on devient loueur de voiture? Ou peut-être que c'est pas ça du tout en fait l'activité, je sais pas.
Si, c'est un peu réducteur, loueur de voiture, parce qu'en fait on est agent de voyage et on loue effectivement des voitures, mais on est surtout spécialiste du self-drive. C'est-à-dire que notre métier ici, c'est de conseiller les gens sur comment est-ce qu'on peut faire du self-drive, quel circuit organiser, et on leur met à disposition des véhicules, mais on organise aussi tout le voyage. Donc on peut organiser les activités, on peut organiser les hébergements, enfin planifier l'itinéraire et louer et réserver des hébergements. Et voilà, donc on fait tout le circuit de bout en bout pour accompagner les gens. Il faut savoir qu'au Botswana, c'est pas un pays qui est encore très facile pour tout ce qui est itinéraire, pour réserver les choses, c'est compliqué, il n'y a pas internet partout, les pistes sont très compliquées, peuvent être très compliquées. Donc si on regarde sur une carte, on a l'impression que c'est à côté. 100 km, on se dit bah c'est pas beaucoup, je le fais en une heure ou deux heures, et parfois il faut 4 heures, 5 heures pour faire 100 km. Donc c'est pas facile d'organiser un voyage au Botswana, et c'est là où on apporte quelque chose aux clients.
Alors en France, on aime bien tout mettre dans une case, donc il faut quoi comme diplôme pour être professionnel du self-drive?
Je ne sais pas s'il faut un diplôme, en tout cas pour notre part, on vient du service, donc ça nous aide peut-être à dans ce métier. On était dans un métier qui n'a rien à voir, puisqu'on était dans l'informatique. Mais ça nous aide beaucoup, d'une part, à créer notre site web et à donner des informations aux gens. Et d'autre part, dans la notion de service, qu'est-ce que les gens attendent et comment répondre à leurs besoins. C'est comme ça que c'est en ça que ça nous aide.
Ce que je trouve génial dans ce genre de parcours de vie, c'est que vous avez finalement réalisé un rêve, quoi. Vous avez montré que c'est possible de faire un virage à 180 degrés pour aller au bout d'une idée qu'on a eue grâce au voyage.
Oui, on l'a fait, effectivement, on est en plein dedans. Maintenant, c'est pas fini, hein. Il faut encore beaucoup de travail. On se rend toujours compte sur place des difficultés qu'on peut avoir et des problèmes de façon générale, bien sûr, hein. Je parle de comment s'adapter au pays, à la culture, très différente, puisque le Botswana, c'est quand même très très loin de notre culture occidentale. Et comment s'habituer à des petites villes, puisque nous, on venait de Paris. Donc voilà, tout ça, c'est pas toujours simple, mais voilà, on y arrive au jour le jour, on s'en sort.
Alors tu dis petite ville, c'est vrai qu'on est à Kazané, donc c'est un tout petit point à la frontière Zimbabwe, Zambie, Namibie et Botswana. Pourquoi Kazané? Comment vous êtes arrivé là? Comment vous avez choisi cet endroit-là? Et pourquoi avoir choisi de créer un business dans une petite ville justement?
Alors à l'origine, quand on a commencé à faire nos recherches, on s'est aperçu que Kazané était très bien implanté puisqu'il était à la frontière de trois pays, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. 4 avec le Botswana, donc on est vraiment sur 4 pays qui sont vraiment adaptés au self-drive, donc pour nous c'était idéal. Et lorsqu'on a commencé le projet, à l'époque il n'y avait pas d'offres de compagnie de self-drive qui étaient installées à Kazané. Donc on a été un petit peu les premiers à s'installer et être spécialisés dans le self-drive à Kazané. Depuis, il y en a eu d'autres, mais parce que c'est quelque chose qui se développe et on a pu voir l'évolution comme ça et c'est très enrichissant. Ouais.
Et tu dis donc le self-drive, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup?
Oui, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont pour simplifier, hein, on va dire qu'il y a deux modes de voyage au Botswana ou même en Afrique de façon générale, en Afrique australe. C'est soit un voyage organisé, où dans ce cas le client est pris en charge par une équipe, il voyage, il va de lodge en lodge, ou alors il va camper avec des gens qui l'accompagnent. Soit ce qu'on fait nous, c'est-à-dire le self-drive, où là c'est le voyageur qui prend en main son voyage, et donc il a une voiture à sa disposition, équipée d'une tente, de tout l'équipement de camping nécessaire pour voyager, et il voyage comme ça dans le pays seul, entre guillemets, puisqu'il est il est seul dans sa voiture, et il rencontre des gens, il rencontre les animaux, c'est à lui de les trouver. C'est pas quelqu'un qui va lui dire tiens à côté là il y a un animal, tiens il y a des gens, on va aller les voir. C'est une aventure plus personnelle, on trouve. Mais voilà, c'est deux façons de voyager qui sont différentes,
complémentaires.
Elles sont pas forcément antinomiques. Les deux sont bien, mais elles sont différentes. Et on s'aperçoit que de plus en plus de gens ont envie de découvrir leur Afrique. De pas forcément suivre un groupe, pas forcément suivre un guide qui vous dit bah tiens on va aller là, on va aller voir ces gens là, on va aller voir ces animaux là, mais plus de partir comme ça et de découvrir, de tomber sur des choses qu'ils n'attendent pas et de partir un peu à la rencontre de l'inconnu.
C'est ce que tu disais, le Botswana c'est quand même très différent, tu parles d'animaux, donc ici il y a des animaux, des big five, donc on peut rencontrer des lions, des léopards, des éléphants, des rhinos. C'est pas dangereux de venir sans connaître justement le terrain, le pays, et se dire allez, yalla, moi je vais me faire un road trip, comme ça?
Alors c'est pas dangereux, parce qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour... toutes les informations qu'il faut avoir pour partir en toute sécurité. Mais ça reste quand même une vie sauvage. Les campings au Botswana en particulier ne sont pas fermés, ne sont pas clôturés, contrairement à d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou la Namibie. Donc quand vous arrivez le soir dans votre camping, eh ben, il peut y avoir des animaux dedans. Il peut y avoir des... Et pendant la nuit, il peut y avoir des éléphants qui traversent. Il peut même y avoir des lions qui traversent. Voilà, c'est ça l'aventure. Il faut bien comprendre que ces animaux sont dangereux et qu'on ne peut pas les approcher, qu'il faut rester à distance de ces animaux. Mais nous, en tant qu'humains, on n'est pas des proies de base de tous ces animaux sauvages. Donc ils ne vont pas chercher à attaquer forcément l'homme. Ils vont juste tracer leur chemin là où ils ont envie d'aller. Et parfois, ça les mène à des campings ou à la route quand vous êtes dans votre voiture. Voilà. Il n'y a pas de danger particulier quand vous êtes dans votre voiture. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger quand vous êtes dans votre tente. Les seules choses un peu risquées, évidemment, c'est quand vous êtes à pied, quand vous êtes en dehors de la voiture. Donc ça, c'est des choses à éviter ou à le faire avec grande précaution. Voilà. Mais on n'a jamais eu d'accident. Il faut savoir qu'à notre connaissance, il n'y a jamais eu d'accident au Botswana sur des gens qui étaient en self-drive sur des périples.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Quatre ans d'expatriation. Qui c'est qui veut faire le bilan?
C'est comme partout, même si on déménageait en France, je pense qu'il y aurait des pour et des contre. Il y a des choses qui sont géniales et il y a des choses qui le sont moins. Je pense quand même qu'on se plaît parce que nous, ça fait 4 ans qu'on n'est pas revenu en France. Ouais, on a beaucoup de chance parce que nous, on a beaucoup de visites. On a nos amis, nos familles qui viennent, donc on arrive à partager un peu tout ça avec eux et c'est eux qui nous ramènent un peu la France à nous.
Et on rencontre beaucoup de gens.
On rencontre aussi des Français de passage. Le tourisme, ça permet ça aussi, hein, c'est qu'on n'est pas isolé finalement. Donc ça c'est la partie. Vraiment sympathique, c'est qu'on ne se sent pas perdu dans une autre culture finalement, parce qu'on arrive un peu à... Déjà on s'y fait plutôt pas mal, cette nouvelle culture, et en plus on a quand même notre petit bout de France qui vient régulièrement pointer son nez chez nous, ce qui est bien, bien agréable, parce que nous on n'est pas du tout partis parce qu'on n'aimait pas la France, on aime beaucoup notre pays. On est parti pour vivre des nouvelles aventures et on a vraiment plaisir à faire le lien entre ces deux parties du monde finalement. Sur les points plus négatifs, je suis pas française pour rien, la nourriture me manque terriblement. La nourriture française nous manque terriblement, ça c'est une certitude.
Il faut savoir qu'au Botswana en fait là, il y a très peu d'agriculture. Où c'est une agriculture très très basique, donc ils font pousser très peu de choses, très peu de légumes, et tous les légumes qu'on trouve sont importés, 90% des légumes qu'on va trouver ici au Botswana, ils sont importés d'Afrique du Sud, du Zimbabwe ou d'autres pays. Voilà. Donc c'est pas un pays où traditionnellement qui est très très ouvert sur la bonne nourriture. Donc comme tu le vois, on est un petit peu en manque de bonne nourriture.
C'est pour ça que vous avez accepté l'invitation au restaurant ce soir.
Quand on nous parle de restaurant, on vient tout de suite. Oui, c'est clair.
J'ai peut-être envie de terminer avec le tourisme botswanais. C'est qui peut me parler du tourisme aujourd'hui au Botswana?
De façon générale, le tourisme c'est une activité en forte augmentation au Botswana, notamment parce que le Botswana en a besoin. La principale richesse du Botswana vient des minerais. Donc ils ont quelques mines, ils exploitent du diamant notamment. Malheureusement, cette ressource commence à s'épuiser. Donc ils essayent de développer un petit peu d'autres activités. L'agriculture en fait partie, mais l'agriculture animale. Et l'élevage, exactement. Et l'autre partie, la troisième partie, c'est le tourisme. Donc il développe le tourisme, donc il est en forte croissance au Botswana.
Mais il y a aussi cette image du Botswana comme la Suisse de l'Afrique où le tourisme est relativement cher. Enfin, en tout cas, c'est pas un tourisme cheap de backpackers.
Oui, c'est une image un petit peu fausse quand même. Enfin, c'est vrai et faux parce qu'il y a au Botswana énormément de lodges de luxe. Quand je dis de luxe, c'est vraiment, vraiment du haut niveau. Donc c'est des lodges de grosse, grosse qualité, de très bonne qualité, avec un service excellent, mais qui est à des prix qui sont vraiment, vraiment astronomiques. Et à côté de ça, on a quand même, nous, ce qu'on développe, c'est du camping à des prix relativement raisonnables. Voilà. Donc il y a aussi cette partie-là, on peut faire un voyage au Botswana à des prix raisonnables.
Vincent, Julie, un site internet pour celui qui veut préparer son voyage et venir faire un road trip ici au Botswana.
Ah bah le nôtre.
J'en connais qu'un.
Oui. C'est tawanasafedrive.com.
Tawana.
C'est T-A-W-A-N-A.
Tawana, c'est ça veut dire petit lion en Setswana. Ouais, c'est un lionceau en Setswana. Ouais, c'est l'origine. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à l'origine, quand on voyageait, on avait un blog de voyage et qui s'appelle Tawana Blog, qui est toujours en ligne. Et voilà.
Julie, Vincent, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.